Quand le jeu vidéo nous parle philosophie. Il est 18h, vous écoutez Point d'expérience, l'émission qui fait le point philo sur une expérience jeu vidéo.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Il est 18h, bienvenue dans Point d'expérience, l'émission où pendant une heure, on va s'asseoir au coin du feu et discuter philosophie en s'attardant sur un jeu vidéo. Je suis Jules et je suis en compagnie aujourd'hui de Vincent. Salut Vincent, comment vas-tu ?
Salut Jules, ça va très bien, bonsoir à tous et merci de m'avoir invité pour cette émission.
Mais ça me fait plaisir. Alors Vincent, pour commencer cette émission, j'aimerais te proposer une petite expérience de pensée assez classique en philosophie.
Allons-y.
Imagine que tu te promènes dans la rue et que soudainement, trois enfants t'accostent parce qu'ils sont en train de se disputer. Ils se disputent parce qu'ils ont une flûte et ils veulent savoir à qui revient de droit cette flûte. Parmi ces trois enfants, il y en a un qui a fabriqué la flûte. Et il pense que normalement, la flûte devrait lui revenir de droit parce que ben, c'est lui qui l'a fabriquée, c'est normal. Ensuite, il y en a un qui est le seul à savoir jouer de la flûte. Et il dit que c'est normal que la flûte lui revienne parce que, ben, en fait, il faut bien que la flûte serve à quelque chose et puis que de toute façon, en jouant de la flûte, il fera bien plaisir à tout le monde. Et le troisième enfant, maintenant, c'est le seul qui est trop pauvre pour pouvoir s'offrir une flûte. Et il dit que, ben, effectivement, ce serait plus juste que la flûte revienne à celui qui, de toute façon, ne pourra jamais se l'offrir. La question est donc, à qui donnez-vous la flûte ? C'est un débat assez classique en philosophie qui va en général départager trois visions de la justice. Alors Vincent, à la limite, je peux te poser la question. Toi, intuitivement, à qui tu donnerais cette flûte ?
Alors, partant du principe qu'il n'y a pas forcément de mauvaise réponse.
Il n'y a pas de mauvaise réponse.
Peut-être, alors, dans un premier temps, je la donnerais à celui qui sait jouer. Et peut-être qu'après, en l'autre option, ce serait de la donner à celui qui n'a peut-être pas les moyens de s'en acheter une pour qu'il puisse apprendre à jouer, justement.
Ok, c'est effectivement une réponse qui, moi, me convient tout à fait, tu passes le test. En réalité, chaque
je peux
vision...
rester alors.
Oui, super, tu ne dégages pas. Chaque vision correspond donc à une vision de la justice. Si vous êtes plutôt du genre à vouloir donner la flûte à l'enfant le plus pauvre, vous avez une vision égalitariste de la justice. Et vous postulez que le but de la justice, c'est de maximiser les chances de tout le monde. Il faut réussir à faire en sorte que tout le monde ait à peu près les mêmes chances dans la vie. Si vous considérez qu'il faut donner la flûte à la personne qui est capable d'en jouer, vous avez plutôt une vision utilitariste de la justice. Vous pensez que le but de la justice est de maximiser le bien commun. Il faut que la flûte soit utile, il faut qu'elle serve, et puis de toute façon, même ceux qui ne savent pas jouer de la flûte vont bénéficier du fait que celui qui a la flûte et qui sait en jouer l'est, puisque à la fin des fins, il pourra jouer de la flûte et faire plaisir à tout le monde. Si maintenant vous pensez que c'est légitime de donner la flûte à celui qui l'a fabriquée, vous avez une vision plutôt libertarienne de la justice. Vous pensez que la justice doit viser à maximiser la liberté individuelle. En gros, il est légitime que vous bénéficiez de votre travail. Si c'est vous qui avez travaillé pour quelque chose, eh bien le fruit de votre travail doit vous revenir, et c'est normal. Aujourd'hui, il semble que ce soit plutôt cette version libertarienne qui soit prédominante. En particulier parce que ben, c'est le modèle qui découle des États-Unis, avec l'idée que eh bien, le travail d'un individu lui revient de droit. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut se pousser ce modèle au bout ? Qu'est-ce qu'il se passerait si on crée une société qui serait entièrement régie autour de l'individu et forcément sans aucune intervention de l'État, c'est-à-dire sans aucun impôt, sans aucun prélèvement de votre travail ? La totalité de votre travail vous revient et nul ne peut vous empêcher de l'avoir. Eh bien, cette question et ce postulat, ça va être celui du jeu BioShock. C'est un jeu qui est sorti en 2007 sur Xbox 360 et Windows et qui a été conçu par un certain Ken Levine. C'est un jeu de tir à la première personne, c'est-à-dire que vous incarnez la personne et la caméra incarne un peu vos yeux et donc vous voyez essentiellement vos bras. Vous allez donc aller de niveau en niveau en tuant un maximum de personnes qui vous attaquent. C'est un jeu qui va complètement marquer son époque et qui va avoir deux suites. On va se concentrer toutefois essentiellement sur le tout premier opus puisque c'est d'abord celui qui va véritablement créer la mythologie BioShock et celui qui va vraiment traiter les questions qui vont nous intéresser. Ce qui fait que le jeu est à ce point-là resté dans les annales, en dehors de son gameplay qui est quand même assez chiadé et assez peaufiné, eh bien ça va être son ambiance et ça va être son histoire. Alors, comment ça va se passer ? Le jeu se déroule en 1960. Et plutôt que de vous décrire globalement ce qui se passe dans le jeu, il me semble plus pertinent, éventuellement, de vous raconter les toutes premières minutes parce qu'elles sont assez iconiques. Vous commencez le jeu dans un avion. Vous ne savez pas véritablement ni qui vous êtes, ni où vous allez, mais immédiatement, l'avion se crache. Et vous vous retrouvez au milieu de l'océan, avec autour de vous des morceaux d'épave en feu. Et là, au milieu de l'océan, il y a un phare. Alors, comme vous n'avez pas véritablement d'endroit où aller, bien vous dirigez vers le phare, vous rentrez dans le phare, et là, vous êtes accueilli par une sculpture gigantesque et un bathyscaphe. Vous montez dedans, et là, le bathyscaphe s'enfonce sous l'océan. Et vous vous retrouvez, à ce moment-là, dans une cité sous-marine. Une cité qui, visiblement, a été construite dans les années 30-40, et qui donc est dans le plus pur style art déco. Vous pouvez vraiment vous imaginer dans une espèce de New York de Broadway des années 40, mais au milieu de l'océan Atlantique. Donc le jeu va vraiment avoir cette ambiance extrêmement originale, et tout le jeu va se passer dans cette ville sous-marine qui s'appelle Rapture. Alors, eh bien Vincent, tu as joué au jeu, nous avons joué au jeu, on s'est remis dans ce jeu auquel on n'avait pas joué depuis pas mal d'années.
Mais avec plaisir.
Avec plaisir, et ça a même été une très agréable surprise de revenir sur ce jeu. Alors qu'est-ce que tu en as pensé ?
Alors, bah, écoute, moi j'aimerais du coup commencer mon propos en appuyant le tien, et notamment par rapport à la découverte du jeu. Alors toi, tu as parlé un peu de la trame narrative, hein, comment on découvrait le jeu, comment se présentait-il. Et en fait, en tant que joueur, c'est-à-dire au niveau clavier-souris, comment ça se passe devant l'écran ? Et bah écoutez, en fait, ce qui est assez fort dans le jeu, c'est qu'il vous propose tout de suite en fait, une intrigue. C'est ça qui est très fort, c'est que tout de suite, le jeu vous amène à vous poser plein de questions. Et c'est ça qui m'a marqué dans l'introduction, moi.
Ouais,
c'est
quand... Il y a un accrochage qui est immédiat, quoi. Immédiatement, on est dedans, quoi.
En fait, le jeu vous amène à vous interroger sur où je suis, même qui je suis, parce que finalement, il y a assez peu d'infos sur le personnage aussi. On sait rien du tout sur le personnage que vous incarnez. C'est vraiment très peu. Il y a juste une petite scène dans l'avion où vous lisez un mot de vos parents. Enfin, de ce que je me souviens, mais en gros c'est tout. Et du coup voilà, le jeu a cette force là, c'est que tout de suite on s'interroge sur tout ce qu'on voit, tout ce qu'on perçoit et tout ce qu'on entend. Donc ça c'est très fort. Et ensuite effectivement il y a moi au niveau de la découverte du jeu, ce qui m'a frappé aussi, c'est visiblement la volonté de faire une immersion par la submersion, c'est-à-dire qu'en fait les développeurs du jeu vous proposent tout de suite de vous enfoncer sous l'eau pour découvrir le monde qu'ils ont créé. Et là, quel monde, puisque tout de suite, on est dans 20 milieux sous les mers, hein, c'est-à-dire qu'on pénètre au cœur de l'océan et on découvre une ville, comme tu le disais, ambiance rétro-futuriste.
Et puis ce qui est fou, c'est qu'on parle quand même d'un jeu qui date de 2007, qui a quand même bien pas mal d'années dans la tête, et c'est toujours aussi impressionnant. On arrive, et enfin, le coup de fouet qu'on se prend en arrivant dans cette ville sous-marine est toujours aussi impressionnant.
Ce qui est très fort, ce que j'ai trouvé aussi, c'est qu'on y joue quand même, donc 2007, hein, c'est ça la date de sortie, donc on y a rejoué 15-16 ans après, et en fait le jeu a très bien vieilli. C'est ça aussi qu'on remarque, c'est-à-dire que tout capte notre attention dans cette découverte, cette phase de découverte, et ça c'est très fort. Et du coup, j'ai regardé un peu aussi l'univers et j'ai trouvé, alors je ne sais pas si tu partages ça, mais en fait que c'est un univers qui relevait aussi du dieselpunk. Je sais pas si ça te dit quelque chose.
Alors de nom, oui, mais...
En fait, c'est des univers un peu de jeux de rôle et ce jeu coche les différentes cases du dieselpunk dans le sens où ça se passe dans les années 50, enfin pas des années 50, mais il y a ce style-là. Dans le sens où c'est une course à la technologie en termes d'univers.
Oui, d'accord.
Et dans le sens où aussi il y a un peu, comme tu le disais, un univers qui est marqué par une très forte crainte du communisme aussi.
Oui, effectivement. Ouais. On y reviendra d'ailleurs. Mais effectivement, donc en fait, ça se rejoint un peu ce qu'on pourrait appeler les univers steampunk, mais plutôt dans cette espèce d'esthétique entre deux guerres.
En fait, le dieselpunk, de ce que j'ai trouvé, c'est un dérivé du steampunk.
D'accord.
Donc voilà. Et donc, un dernier élément sur cette découverte du jeu, c'est qu'on comprend aussi très vite qu'on va évoluer dans un espace assez clos finalement, enfin dans des espaces assez clos et
très claustrophobe hein, parce qu'on est sous l'eau, il y a des fuites d'eau partout.
C'est ça, et donc on va pas évoluer forcément dans un monde ouvert en fait, on va être dans des espaces fermés et que la tension va aussi découler de cet aspect du jeu.
Ouais, une tension qui monte assez vite d'ailleurs parce que assez rapidement, le jeu peut parfois flirter avec l'horreur, ce qui contraste d'ailleurs, puisqu'on a cette esthétique avec une musique très jazzy, etc., avec ce côté très Broadway, mais à côté de ça, on se fait très rapidement attaquer, on arrive dans des endroits qui sont très glauques, et il y a un contraste qui est assez intéressant à ce niveau-là.
Ah oui, bah, vous êtes très vite happé dans l'action, en tant que joueur, puisque dès la sortie de votre petite navette, en fait, vous assistez déjà à travers le hublot à une scène de crime, en fait, avec aussi quelqu'un qui est visiblement contaminé. Alors on ne sait pas encore parce que le scénario se développe encore après, mais en gros on a des ennemis qui sont tout de suite à vos trousses.
Et ça va peut-être être le point sur lequel on insistera le plus, c'est qu'au départ, effectivement, on n'a absolument aucune idée de que va être le but du jeu, pourquoi on est là, quelle va être l'histoire. Rapidement, le seul but devient s'échapper de cette ville, et c'est vraiment au fur et à mesure que les différents éléments de l'intrigue vont se dessiner et qu'on comprendra vraiment de quoi il retourne.
Oui, effectivement, et aussi où l'ambiance va s'imprégner aussi de plus en plus dans le jeu, puisque au fur et à mesure des niveaux que vous allez découvrir, cette ambiance un peu rétro-futuriste va se développer, l'univers va vous montrer toutes ses richesses, et voilà, donc c'est assez formidable comme expérience.
Bah ouais. Alors, on a donc pu faire rapidement une espèce de dessin et brosser à grands traits en quoi consiste le jeu, quels sont ses enjeux et quelle est l'ambiance qui va vraiment nous porter tout au long. On va donc se poser en fait la question de fond, et cette question de fond elle va toucher à l'histoire du jeu et au lore. On va rapidement s'intéresser au personnage d'Andrew Ryan, le personnage qui est à l'origine de la création de cette ville de Rapture, et on va se poser la question, mais en fait pourquoi est-ce que cette ville s'est créée, quel était le but de ce personnage-là, et qu'est-ce qu'il cherchait à véhiculer à travers ça. Et on va voir ça juste après une petite introduction musicale, l'introduction qui marque votre entrée dans la ville de Rapture.
Point d'expérience.
De retour dans Point d'expérience, on était en train de se poser la question : que donnerait un monde où toute la justice serait centrée autour de la liberté individuelle, un monde où finalement l'État n'aurait quasiment aucun rôle à jouer ? Est-ce que c'est un monde qui pourrait fonctionner ? Peut-on parler d'une forme d'utopie ou au contraire, est-ce que ce serait un monde voué à l'échec ? Et on était en train de se poser cette question avec le jeu BioShock. Comme on vient de le dire, le jeu BioShock se passe dans la ville sous-marine de Rapture, une ville qui a été fondée par un personnage fictif qui s'appelle Andrew Ryan. Andrew Ryan, c'est un personnage qui est présent dès le départ dans le fameux phare où on atterrit au tout début du jeu, avec l'immense statue qui nous accueille, et immédiatement dans le bathyscaphe, on va avoir une espèce de petite télévision qui va s'allumer et qui va nous proposer une cinématique intradiégétique où ce personnage d'Andrew Ryan va lui-même nous présenter Rapture. Et il va nous dire ceci. Mon nom est Andrew Ryan. Permettez-moi de vous poser une simple question. Ce qu'un homme obtient par le travail à la sueur de son front, cela ne lui revient-il pas de droit ? Non, répond l'homme de Washington. Cela appartient aux pauvres. Non, répond l'homme du Vatican. Cela appartient à Dieu. Non, dit à son tour l'homme de Moscou. Cela appartient au peuple. Pour ma part, j'ai choisi d'ignorer ces réponses. J'ai choisi une voie différente. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi rapture. Une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs. Où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que vaine. Où les grands ne seraient plus humiliés par les petits. Et à la sueur de votre front, cette cité peut aussi devenir la vôtre. On voit que dès le départ, le jeu veut véritablement nous immerger dans cette question-là, dans la possibilité de cette idéologie-là, au travers de ce personnage de Andrew Ryan qui sera absolument omniprésent dans le jeu. Alors, qui est ce personnage énigmatique ? Eh bien, Andrew Ryan, il serait né en 1892 en Russie et il aurait fui ce pays en 1919 pour aller en Angleterre, puis aux États-Unis en 1927, où il aurait fait fortune en vendant des armes et de l'acier. Il est au départ dévoué au modèle américain de réussite personnelle, mais après le crash boursier, les programmes sociaux qui vont avoir lieu dans les années 30 vont le conduire petit à petit à s'en détacher. Et la goutte d'eau pour Andrew Ryan, ça va être la destruction d'Hiroshima avec la bombe atomique. Parce que, à ses yeux, la bombe, c'est la corruption ultime de ses idéaux. La science et la détermination exploitées pour la destruction. À ce moment-là, Andrew Ryan va donc concevoir l'idée d'une cité sans État, complètement indépendante, qu'il va bâtir au milieu de l'océan, dans les eaux internationales. Et cette ville, ça va donc être Rapture. Rapture, au départ, c'est donc une utopie scientifique et artistique. C'est une ville sans aucune loi pour brider l'art ni la science qui permettrait à tous les êtres d'exception de développer leur plein potentiel sans avoir affaire à ce que Andrew Ryan va appeler les parasites. Ce sont les êtres humains qui vivent aux dépens d'autrui. Alors, ce qui va m'intéresser, parce que c'est vraiment une des thématiques centrales du jeu, c'est que le personnage d'Andrew Ryan, il sort pas de nulle part. En fait, il est directement inspiré d'une écrivaine philosophe américaine qui s'appelle Ayn Rand. C'est une philosophe qui est assez peu connue en France, mais en États-Unis, c'est une vraie star. Alors, il va y avoir plusieurs parallèles assez directs entre Ayn Rand et Andrew Ryan qui montrent que ce n'est absolument pas un hasard et que Andrew Ryan est véritablement une référence à cette philosophe. D'abord, Ayn Rand, elle est née en 1905 et morte en 1982, et elle vit donc sensiblement à la même époque qu'Andrew Ryan. Comme Andrew Ryan, elle est naturalisée américaine, mais elle est d'origine russe. Son vrai nom, c'est Alissa Zinovievna Rosenbaum. Comme Andrew Ryan, c'est son exil de l'URSS aux États-Unis qui va construire sa philosophie, une philosophie qui va être extrêmement similaire. Et le parallèle est en fait assez explicite, puisqu'il s'avère qu'Andrew Ryan, eh bien, c'est un anagramme quasi parfait d'Ayn Rand. Ayn Rand, elle est considérée d'abord comme une philosophe aujourd'hui, et puis elle est la porte-parole d'un courant qu'on va appeler l'objectivisme. Mais en réalité, ses ouvrages les plus connus, ce sont des romans. La grève et la source vive. Alors, en quoi consiste cette pensée d'Ayn Rand qui va véritablement théoriser le système libéraliste des États-Unis et aujourd'hui, eh bien, ce qu'on pourrait appeler le capitalisme ? Toute la pensée d'Ayn Rand va tourner autour de ce qu'elle va appeler la vertu de l'égoïsme. Alors immédiatement, ça nous fait un peu frémir, c'est un concept qui paraît immédiatement problématique et évidemment Ayn Rand est volontairement provocatrice. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'égoïsme, dans la bouche d'Ayn Rand, ce n'est pas juste une passion individuelle qui ne viserait que votre propre satisfaction. C'est pas juste « j'ai envie de ça, alors je me l'accapare ». L'égoïsme, pour Ayn Rand, ça désigne le droit de tout individu à vivre pour lui-même, sans influence aucune, en particulier de l'État, évidemment. Et donc, Ayn Rand, elle va poser une question éthique. Cette question, c'est savoir comment vivre sa vie et, du coup, tout ce qui va en découler, savoir comment organiser l'existence des individus au niveau politique. Donc l'égoïsme chez Ayn Rand, c'est l'affirmation de la valeur de son propre jugement. Être égoïste, c'est ne reconnaître aucune autre autorité que son propre jugement rationnel. En d'autres termes, les autres n'ont pas à me dire comment je dois vivre ma vie. Et donc, dans le cas d'Ayn Rand, on va parler d'égoïsme rationnel. C'est-à-dire l'affirmation de soi et de ses buts éclairé par la raison. Il est rationnel de chercher à accomplir son propre bonheur. Et c'est même le principe moral le plus haut. Pourquoi est-ce que la vie des autres devrait-elle avoir plus d'importance que mon propre bonheur? Selon quel principe l'altruisme est-il une vertu supérieure à l'égoïsme? Voilà une question qui a l'air finalement assez choquante, parce qu'on a véritablement été habitué à considérer l'altruisme comme un comportement fondamentalement positif. Et forcément, en nous amenant à remettre ça en question, eh bien, Ayn Rand ne nous brosse pas dans le sens du poil. Mais c'est une question qui mérite d'être posée. Qu'est-ce qui nous permet fondamentalement de justifier que le bonheur des autres vaut mieux que le mien? Au nom de quoi est-ce que je devrais me sacrifier mon propre bonheur? Et surtout, est-ce qu'à la fin des fins, ça n'amènerait pas finalement un monde moins égal et avec moins de bonheur générique de toujours se sacrifier pour l'altruisme? Est-ce que finalement, il n'y aurait pas de véritables conséquences positives sociales à valoriser son propre bonheur? On voit que la philosophie d'Ayn Rand, elle va effectivement en premier lieu critiquer l'État, mais elle va aussi et surtout critiquer la religion, évidemment. C'est parce que le principe de ce renoncement à soi, qui est valorisé par la religion chrétienne, ben, il est non seulement rejeté comme source de culpabilisation par Ayn Rand, mais il est surtout vu comme immoral, parce que ça va à l'encontre de cette recherche du bonheur individuel. Et ça, évidemment, c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver dans Bioshock, puisque Andrew Ryan va non seulement critiquer l'État, en cherchant du coup à faire cette ville dans les eaux internationales, mais dès le départ, quand on va rentrer dans le phare, on va être accueilli par un slogan très fort, marquant, « No gods or kings, only man ». Ni dieu, ni roi, seulement l'homme. Alors immédiatement, on a toutefois un certain nombre d'objections contre cette philosophie. C'est assez difficile comme ça de se sentir concerné et impliqué par cette philosophie d'Ayn Rand et on aura tendance à la rejeter. Et on va en voir en particulier une objection. Comment est-ce qu'on pourrait vivre en société dans ces conditions? Comment est-ce qu'on peut accepter une vie en société si finalement chacun ne pense qu'à sa gueule? Après tout, il y a ce proverbe « la liberté commence là où s'arrête celle des autres ». Qui montre bien que bah, cette affirmation totale de l'individu va immédiatement se confronter à des limites. Mais Ayn Rand, c'est une philosophe cohérente. Parce qu'elle va dire que si penser à soi, c'est l'exigence de la raison, alors il faut reconnaître ce droit à quiconque de vivre pour lui-même. Tout le monde a le droit d'être égoïste. Ainsi, non seulement personne ne peut rien exiger de moi, mais en retour, eh bien, je ne peux rien exiger d'eux. Et donc, il m'est formellement interdit d'utiliser la force contre les autres. Ça peut paraître paradoxal, mais la pensée d'Ayn Rand, c'est donc paradoxalement une pensée de la non-violence et de la tolérance. L'autre est une fin, non un moyen. De plus, l'entraide sociale n'est pas rejetée par principe, elle est même valorisée tant qu'elle fait l'objet d'un choix. Ici aussi, c'est un idéalisme qu'on retrouve dans Bioshock et dans le personnage d'Andrew Ryan. L'affirmation de l'individualité doit conduire à une forme d'harmonie. Andrew Ryan y présente véritablement cette ville de rapture comme un idéal, comme une forme d'utopie scientifique. Et l'idée, c'est que si chacun peut affirmer sa propre individualité, si chacun peut aller au bout de ses idéaux, eh bien, à la fin des fins, c'est la société tout entière qui sera harmonieuse. Évidemment, on voit pourquoi cette pensée de Ayn Rand a eu autant de succès aux États-Unis, en dehors, ceci étant dit, de son athéisme, bien entendu. Les relations entre les individus doivent être libérées de toute réglementation de la part de l'État, et l'État, pour Ayn Rand, ne doit s'occuper que des questions de sécurité, donc de la police et de la justice, afin de préserver la liberté de chacun. Ici, on a peut-être la plus grosse fracture entre la pensée d'Andrew Ryan et celle de Ayn Rand, puisque, encore une fois, Ayn Rand ne supprime pas complètement l'État. Elle garde l'État, simplement, sous l'aspect de la sécurité, donc de la police. Là où, en fait, Andrew Ryan, dans Bioshock, va avoir une attitude qui on pourrait qualifier véritablement de libertarienne, c'est-à-dire qu'on va avoir une totale suppression de l'État. Et donc on voit qu'on a quand même malgré tout un postulat idéologique qui est extrêmement similaire à celui dans lequel nous plonge Bioshock et qu'incarne cette ville de rapture. Ceci étant dit, évidemment, le jeu ne va pas se contenter de nous décrire cette idéologie, il va également en montrer les limites, qu'on verra après un nouveau morceau issu de la BO du jeu. Somewhere,
mother stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms.
D'expérience.
À l'instant, vous écoutiez Somewhere Under the Sea, morceau bien nommé qui appartient donc à la BO du jeu BioShock, morceau de Bobby Darin. Nous venons donc de voir comment le jeu BioShock traite cette thématique du libéralisme et la possibilité d'une espèce de cité utopique où il n'y aurait plus aucune loi, traitée à la fois par le personnage d'Andrew Ryan dans le jeu et dans la réalité par la philosophe Ayn Rand. La question est donc comment ce monde va fonctionner, est-ce qu'il va tenir ou bien est-ce qu'évidemment il va s'effondrer? Vous vous doutez de la réponse puisque lorsque nous arrivons dans la ville de Rapture au début du jeu, cette ville est quasiment en ruine, ça fuit de partout et les peu de gens qu'il y a qui sont restés vous attaquent à vue. Ils sont complètement fous. Donc évidemment, en fait, il va falloir remonter et savoir comment effectivement cette utopie s'est effondrée sur elle-même. Et il va y avoir plusieurs aspects. D'abord, il va y avoir tout ce qui va être la question des dérives éthiques. Et puis, il va y avoir un certain nombre de dérives économiques. Les dérives éthiques, d'abord, elles vont être incarnées par plusieurs scientifiques fous qu'on va découvrir au fur et à mesure du jeu, notamment en ayant accès à des cassettes où certains personnages se sont enregistrés, éventuellement certains personnages qui sont déjà morts. Mais comme ça, on va pouvoir remonter et apprendre tout un tas de choses qui se sont passées. Le premier scientifique fou qu'on rencontre, c'est le docteur Steinman, c'est celui qui se fera office de premier boss du jeu. C'est un chirurgien esthétique fou qui cherche à créer des œuvres d'art en s'inspirant de Picasso et qui donc évidemment défigure abominablement ses patients. Effectivement, puisqu'il n'y a aucune loi, la créativité de tous les êtres humains est valorisée et donc ce genre de personnage complètement timbré eh bien, peut tout à fait décider de faire ce qu'il veut dans ce genre d'univers. C'est donc le premier personnage. Le deuxième qui va être essentiel pour l'histoire et qui va vraiment nous permettre de comprendre beaucoup de choses, y compris au niveau du gameplay, puisqu'elle va justifier toute une manière de jouer, c'est le docteur Brigitte Tenenbaum. Cette scientifique, elle est décrite comme une scientifique de génie qui aurait travaillé pour les nazis, et elle va découvrir un élément clé du jeu, c'est la dent. C'est un produit qui serait issu des limaces de mer et qui aurait cette propriété incroyable de modifier l'ADN. Concrètement, la dent, ça donne des super pouvoirs. Et de fait, ça nous permet d'expliquer un des éléments de gameplay centraux du jeu, puisque tout le principe de BioShock, ça va être que d'un côté, ça va être un jeu de tir avec des armes, et de l'autre, eh bien, de l'autre main, votre personnage va avoir un certain nombre de super-pouvoirs. À ce compte-là, il me semble aussi que Vincent, tu avais plusieurs remarques, parce que c'était un des aspects du jeu qui t'avait véritablement marqué.
Oui, là aussi, c'est un jeu qui se démarque de manière originale par rapport aux autres FPS, donc ce genre de jeu donc de tir à la première personne. Parce qu'en fait, bon, là, on est quand même dans un schéma de tir à la première personne qui est assez classique, avec une trajectoire assez linéaire dans le jeu. Vous avancez dans les niveaux, les contrôles clavier-souris sont assez simples. Du combat plutôt, donc, comme tu disais, où les ennemis t'attaquent à vue, donc c'est à toi de répondre avec tes armes que tu as en main. Mais là où le jeu se distingue par rapport à d'autres jeux plus classiques, c'est par l'ambidextrie. Tout simplement, en fait, le joueur apprend à changer rapidement de main grâce au clic droit de la souris pour placer et construire ses attaques. Et donc, on a deux mains. Donc, une main droite qui, elle, est équipée des armes classiques que vous pouvez trouver. Donc, armes de poing, du classique.
Le fusil à pompe, ce genre de bonnes choses.
Voilà, hein. La mitraillette, ou une clé au départ, une clé à molette.
La bonne vieille clé à molette, ouais.
C'est ça. Et par contre, là où la nouveauté, c'est le côté main gauche, où en fait, donc, le jeu utilise donc, les éléments du scénario, comme tu l'évoquais, Jules, à travers donc, le plasmide. Pour en fait donner des pouvoirs aux joueurs, alors et du coup des pouvoirs expliqués par la science et par l'univers du jeu, et donc ce pouvoir qui, par exemple, de l'électricité ou de pouvoir lancer du feu à travers votre main gauche, et ben vous permet de créer différentes combinaisons pour progresser et donc vaincre vos ennemis et avancer dans Rapture. Donc ça, c'est très intéressant. Et la prise en main est très facile. Hein. Le jeu est extrêmement bien conçu. Très vite, on a ce système de clic droit qui clic gauche qui vous permet d'avancer, vous sentez très à l'aise et tout de suite vous profitez du jeu.
Le jeu reste difficile, ceci dit. On a assez peu de balles, constamment aller choper des trucs, etc. Rapidement, on galère un peu.
Oui. Après, la difficulté du jeu en état d'armes général, effectivement, là il y a une progressivité qui est assez forte, mais après, c'est sur la prise en main où là par contre vous pouvez vous sentir rapidement à l'aise.
C'est assez clair. En fait, on a très peu d'ambiguïté sur comment on joue, qu'est-ce qu'on doit faire, où on doit aller. C'est assez clair et l'environnement est très très bien travaillé à ce niveau-là.
Exactement.
Le jeu nous propose donc effectivement dès le départ d'avoir tout un panel de super pouvoirs. Et à ce titre-là, on a du mal à voir en quoi le docteur Brigitte Tannenbaum est véritablement fautive. On se dit c'est super cool. Enfin, on arrive à Rapture et on obtient des super pouvoirs. En réalité, l'Adam va rapidement poser des problèmes et va en fait être une des principales causes de l'effondrement de Rapture. Pour plusieurs raisons. La première étant qu'en réalité, c'est un produit qui est extrêmement addictif et qui va petit à petit rendre les gens fous. L'autre chose, c'est que le docteur Brigitte Tannenbaum ne va pas hésiter un seul instant à faire des expériences sur des êtres humains, et en particulier, elle va créer ce qui vont s'appeler les petites sœurs, des petites filles qui sont récupérées d'un orphelinat et auxquelles on va implanter une limace de mère afin qu'elles soient capables de produire d'elles-mêmes de la dent. Donc voilà, une autre dérive tout à fait sympathique que l'on peut voir dans le jeu. On a donc le docteur Steinman, le chirurgien esthétique fou, le docteur Tannenbaum qui expérimente sur des petites filles. On va ensuite avoir le docteur Souchong. Le docteur Souchong, c'est un scientifique qui va travailler sur la manipulation neurologique d'individus. En fait, son rôle et son histoire, elle fait directement écho au fameux projet MK Ultra, un projet de la CIA développé dans les années 50 et qui visait à développer des techniques de contrôle et de manipulation de l'esprit. Et ça, c'est donc quelque chose qu'on va retrouver dans BioShock, où on va découvrir que plusieurs êtres humains ont servi de cobayes pour qu'on puisse leur imposer par la force des choses et des comportements et se servir d'eux comme marionnettes. Alors évidemment, ce sont des personnages qui paraissent assez caricaturaux et les jeux les utilisent pour proposer des dérives qui semblent d'abord proposer une ambiance au jeu plutôt que quelque chose qui philosophiquement pourrait être véritablement pris au sérieux. Mais en fait, la conséquence, elle, paraît tout à fait évidente. En l'absence de régulation, rien ne peut stopper les dérives éthiques de la science. Et c'est donc un premier constat que fait le jeu. Il va ensuite y avoir donc les dérives économiques. Elles vont principalement être incarnées par le personnage de Frank Fontaine. C'est le principal antagoniste du jeu et il va être en partie la cause de l'effondrement de Rapture en tentant de renverser le fameux Andrew Ryan. D'abord, il va développer un marché noir. Ça, c'est très bien pensé parce que Rapture, c'est au milieu de l'océan et donc les produits coûtent cher. Et forcément, on va avoir plusieurs mafieux, dont Fontaine, qui vont développer de la contrebande. Ensuite, Il va devenir l'un des principaux concernés dans la création et le développement de l'Adam. Et il va petit à petit gagner du pouvoir et fomenter la chute d'Andrew Ryan, notamment en se faisant passer pour mort. Là aussi, c'est très intéressant, puisqu'il s'agit de dire, dans un monde où vous n'avez aucune régulation de l'État et où tout est privé, eh bien, rien n'empêche le développement de marché noir ou de contrebande, et éventuellement le développement de mafia. Donc le personnage de Fontaine, il est intéressant non seulement dans la mesure où il va montrer ses dérives mafieuses, mais également parce qu'il va pousser Andrew Ryan dans ses retranchements et mettre ses propres idéaux à l'épreuve. En fait, à partir du moment où Ryan va se rendre compte qu'il y a des complots qui sont fomentés contre lui et qu'il y a des formes de rébellion, il va se retrouver à lui-même agir comme un tyran, lui qui, au départ, voulait précisément un État sans aucune régulation. D'abord, il va se mettre à pratiquer la peine de mort, et il dit par exemple que quelques coups étranglés sont un faible prix à payer pour défendre ses idéaux. Et il va se servir, et c'est surtout ça, d'avancées scientifiques pour contrôler la population en utilisant des phéromones. Là aussi, on a un aspect très science-fiction, mais ce qui est important, c'est de voir qu'à partir du moment où l'utopie est mise à l'épreuve, celui qui l'a créée n'hésite pas un seul instant à se transformer en tyran et à pratiquer quelque chose de très totalitaire. Donc on voit que le jeu va vraiment nous montrer que le système va être effondré, enfin ébranlé, pardon, de plusieurs manières à partir de ses propres règles. C'est le postulat de base qui a conduit Rapture à être créé qui va être la source de son propre effondrement. L'idéologie utopiste de Ryan va s'effondrer sur elle-même à cause des dérives éthiques, des dérives économiques et parce que le personnage d'Andrew Ryan va lui-même être conduit à se comporter comme un tyran. Il va nous rester un troisième aspect à traiter. Mais avant cela, je vous propose un dernier morceau issu de la BO fantastique du jeu BioShock.
Certain my friends would be glad for me, but it's bad for me.
It's so good for you, so new for you, to see someone in such a stew for you. And when I say I'd do all I could for you, it's so good for you.
It's bad for me, I fell till you whispered to me, completely left on the shelf. But since you started to move me, I'm just crazy about myself.
It's a boon for you, a break for you, to hear that my heart's on the make for you. Yet no matter however appealing, I still have a feeling it's bad for me.
I fell till you whispered to me, completely left on the shelf. But since you started to woo me, I'm just crazy about myself.
It's a boon for you, a break for you, to hear that my heart's on the make for you.
Yet no matter however appealing, I still have the feeling it's bad for me.
Point d'expérience.
De retour dans Point d'expérience, nous sommes toujours en train de parler du jeu BioShock au travers de la question que donnerait une cité utopiste ou il n'y aurait aucun état, aucune règle et où, dans l'absolu, les individus pourraient faire ce qu'ils veulent. Et nous venons de voir comment ce système était, pour les créateurs du jeu, voué à s'effondrer. Mais on peut peut-être aller encore plus loin, puisque BioShock va aller plus loin que simplement dire « Bon voilà, ce genre de système, il est voué à s'effondrer parce qu'il y a des dérives éthiques, parce qu'il y a des problèmes au niveau économique, etc. etc. » Ultimement, le jeu BioShock va nous confronter à deux visions radicalement différentes de ce que c'est qu'un individu. Il faut revenir pour ça sur le fondement de l'idéologie d'Andrew Ryan. Pour Ryan, son système va se fonder sur une opposition entre, d'un côté, ce qu'il va appeler les grands hommes, ceux qui créent et font avancer le progrès de l'humanité, et puis de l'autre, les parasites, ceux qui vivent aux dépens d'autrui. Et typiquement, une des cassettes qu'on trouve dans le jeu nous dit ceci. À la surface, les parasites exigent que les médecins leur produisent des soins gratuits, que les fermiers les nourrissent par charité. En cela, ils sont semblables aux dévoyés, vicieux et corrompus, qui rôdent dans les ruelles à la recherche d'une proie facile qu'il séquestrera et torturera selon son bon plaisir. Vous voyez que ça va très loin. C'est-à-dire que pour Ryan, entre quelqu'un qui veut toucher la sécu et quelqu'un qui va séquestrer quelqu'un chez lui, il n'y a pas tellement de différence. C'est très très radical. Toute la philosophie d'Andrew Ryan, elle se fonde donc sur une croyance profonde en une forme de méritocratie, doublée d'un libre arbitre total. L'idée, c'est que les hommes sont entièrement responsables de leurs actions et qu'ils créent leur propre destin. Cette pensée qui est incarnée par la devise d'Andrew Ryan, qu'on retrouve à plusieurs endroits dans le jeu, cette devise c'est « L'homme choisit, l'esclave obéit ». Ici, on peut faire un parallèle avec un nouveau philosophe qui va véritablement chercher à défendre cette idée de la responsabilité personnelle. Ce philosophe, c'est Jean-Paul Sartre. Pour Sartre, l'homme est fondamentalement libre et nous avons toujours le choix, car nous ne sommes jamais déterminés d'avance à être quelque chose. Là, il va falloir revenir sur le fondement de la pensée de Sartre. Ça va être un poil technique, mais on va s'en sortir. Pour Sartre, il y a une opposition fondamentale entre un objet, par exemple, en particulier un objet créé, qui va être défini par avance, et l'être humain. L'objet, il a une définition qu'on lui a déjà donnée. Il a une essence. Et cette essence, elle a été déterminée au moment de sa création. Si je prends un marteau, par exemple, ce marteau, il a été conçu avec un certain but. Et c'est ce but qui justifie son existence. En d'autres termes, il y a une essence préalable, et ensuite l'objet existe. Au contraire, un être humain n'a pas de détermination préalable de ce qu'il est. Un être humain a à être. Ça veut dire qu'un être humain a toutes les possibilités devant lui. Un être humain peut choisir d'être ce qu'il est. On commence par exister, nous commençons par être dans un monde, et puis ensuite, on a la responsabilité de choisir ce qui va nous définir, qui nous sommes, ce que nous voulons faire de notre vie. Et c'est ça que signifie la très fameuse phrase de Sartre « L'existence précède l'essence ». Alors le résultat, ça va être que nous pouvons toujours choisir ce que nous sommes et que rien n'est jamais définitif. On peut toujours changer, on peut toujours nous redéfinir. En d'autres termes, nous avons toujours le choix parce que nous avons toujours des possibilités, même minimes face à nous. Notre existence est définie par cette possibilité. Alors, une fois qu'on a eu cette prise de conscience-là, que les futurs sont toujours ouverts, qu'on a toujours le choix, que nous ne sommes jamais définitivement définis comme étant quelque chose, eh bien, cette responsabilité qu'on a face à l'avenir, ça va être source de ce que Sartre va appeler le sentiment de l'angoisse. Et c'est de là que vient, encore une fois, cette très célèbre punchline de Sartre, « Nous sommes condamnés à être libres. Parce que quoi qu'il arrive, notre futur n'est jamais simplement sur des rails. » Bref, quel que soit le choix qu'on fait, on n'est jamais certain que ce soit le bon, on n'est jamais certain de la direction dans laquelle on va, et donc, eh bien c'est très très angoissant d'être libre. Et donc le comportement de la plupart des gens face à cette prise de conscience, eh bien ça va être de nier cette réalité, et de vouloir se rassurer en faisant comme si nous n'avions pas le choix, comme si nos comportements suivaient cette route toute tracée. Et donc, on va constamment chercher à se trouver des excuses. On va constamment chercher à dire, en réalité, si j'ai agi comme ça, c'est que je n'avais pas le choix. Et ça, ce comportement-là, c'est ce que Sartre va nommer la « mauvaise foi ». Faire preuve de mauvaise foi, c'est nier ce qui fait de nous un être humain. C'est nier cette liberté qui nous constitue en tant qu'individu et dont nous ne pouvons jamais véritablement nous débarrasser. La philosophie de Sartre, elle nous conduit donc à arrêter de nous trouver des excuses, à accepter que nous sommes toujours responsables de nos choix. Et donc, encore une fois, on retrouve véritablement cette pensée, cette affirmation qu'on avait chez Andrew Ryan. L'homme choisit, l'esclave obéit. Et pourtant, le jeu, Bioshock, va chercher à mettre cette devise à l'épreuve. Et cette devise, elle va être mise à l'épreuve à travers, eh bien, le personnage qu'on joue. Alors, ici, je dois m'arrêter un instant parce que je m'apprête à spoiler la grande révélation du jeu. Donc, si parmi vous, il y en a certains qui ont été teasés par ce que nous venons de raconter, je vous prie d'aller jouer au jeu et de revenir écouter le podcast quand vous aurez eu cette fameuse révélation, parce que je vous assure qu'elle vaut le coup. Vous êtes toujours là? Si c'est le cas, allons-y, à vos risques et périls. À la fin du jeu, on va apprendre que Jack, le personnage donc que l'on joue, et qu'on croyait arriver tout à fait par hasard sur Rapture, eh bien en réalité, c'est un des cobayes issus des expériences du professeur Souchong, et de surcroît, le fils caché d'Andrew Ryan. Nous avons été conditionnés neurologiquement pour être un esclave. Lorsque quelqu'un nous demande de faire une chose en commençant par la phrase « Je vous prie de », en anglais « Would you kindly », nous sommes obligés d'agir. En tant que joueur, on va ainsi se rendre compte que depuis le départ, la voix qui nous guide via la radio dans les niveaux commence toutes ses phrases par « Would you kindly ». Nous avons été guidés par une voix qui nous donnait en réalité des ordres et là où on croyait prendre des décisions de nous-mêmes, en réalité, nous étions véritablement sur des rails et nous n'avons jamais eu le choix. C'est déjà un très grand coup de force du jeu, puisqu'il interroge notre statut de joueur en disant « Mais en réalité, le principe d'un jeu vidéo, c'est de ne jamais avoir le choix. On ne fait que ce que, pourquoi on a été amené à faire quelque chose et en réalité, il n'y a jamais de véritable choix. Les choix sont toujours des choses qu'on nous offre, des choses qui ont été pré-écrites et en réalité, eh bien, il n'y a qu'une seule véritable direction. » Et lorsque, enfin, à la fin du jeu, nous allons être finalement confrontés à Andrew Ryan, celui-ci va alors nous tendre son club de golf et il va nous demander « Je vous prie de me tuer. » Et alors, on n'a plus d'autre choix que d'obéir. Mais pendant qu'on obtempère, Ryan répète « L'homme choisit, l'esclave obéit », comme s'il espérait encore qu'on parvienne à se libérer de nos chaînes. Évidemment, ça n'arrive pas. Et on est obligé de tuer Andrew Ryan. Et donc, le jeu nous renvoie véritablement à l'illusion de cette vision et l'illusion du libre-arbitre. En réalité, nous n'avons pas le choix. Nous croyons que c'est le cas, mais ce choix est une illusion. Le personnage principal est complètement déterminé. Nous ne sommes pas arrivés à la fin du jeu par choix, nous sommes arrivés à cette fin uniquement en suivant un script préétabli. Et donc, on pourrait faire tout à fait un parallèle entre cette vision-là proposée par le jeu et une forme de déterminisme social, opposée à cet idéal méritocratique. En réalité, nous sommes tout à fait déterminés socialement, et cette idée que en réalité, nous partirions tous au même stade et que ce sont seulement nos choix et nos décisions qui nous amèneraient à pouvoir arriver à un certain point et en fait si les autres n'y arrivent pas c'est uniquement parce qu'ils sont des esclaves, le jeu nous renvoie véritablement à l'illusion de cette manière de penser. Ceci étant dit, le jeu va quand même malgré tout se terminer sur une forme de note d'espoir puisque finalement notre personnage parvient à se libérer de l'emprise, ce qui va lui permettre d'affronter le méchant final. On peut donc arriver finalement à une forme de conclusion. À quoi ressemblerait un monde où il n'y a aucune règle et aucun état ? Dès le départ, c'est un monde qui est illusoire parce que c'est un monde qui se base sur une croyance profonde en un libre arbitre absolu et en un profil méritocratique qui ne fonctionne jamais. Et c'est un monde qui est voué à s'effondrer à la fois pour des raisons éthiques, en l'absence totale de contrôle, et pour des raisons économiques, en l'absence totale de régulation. Encore une fois, il est à noter une différence profonde entre le système proposé par Ayn Rand qui conservait une forme d'État, ce qui pose de nouveaux problèmes. Par exemple, si on n'a pas d'impôts, comment financer cette fameuse police qui est mise en place par l'État ? Et le système d'Andrew Ryan, qui est véritablement entièrement libertarien. Alors, afin de conclure, est-ce que toi, pour Vincent, tu recommanderais ce jeu aux gens ?
Ah bah bien sûr, ne serait-ce que par la qualité déjà du jeu en lui-même, aussi par toute la trame narrative et aussi philosophique que tu as très bien décrite. Juste aussi, je parlais tout à l'heure, juste un petit point, c'était sur la prise en main très bien faite du jeu, mais c'est aussi le jeu, comment il vous apprend à jouer. Et j'ai trouvé ça assez malin qu'en fait le tutoriel soit intégré dans le jeu, c'est-à-dire on ne vous propose pas une phase distincte du jeu. En fait, c'est à travers des animations diverses comme des dessins, des extraits audio qu'en fait vous découvrez.
Et cette radio qu'on trouve au début et qui va nous indiquer des voix, etc., qui va nous dire ah, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça,
voilà.
etc.
Et ça, c'est très malin parce que c'est aussi un processus d'immersion assez fort. En fait, vous utilisez vos capacités en les découvrant à travers le fil conducteur du niveau. Et donc, voilà, donc c'était un conseil parce que le jeu est magnifique aussi en termes de graphisme. C'est un jeu aussi équilibré. On l'évoquait tout à l'heure, mais c'est un jeu avec lequel on démarre avec peu d'armes et de munitions, ce qui oblige au début à bien exploiter, à bien comprendre les mécanismes du jeu, puisqu'on fait avec peu. Et ensuite, il y aura plus de puissance et de disponibilité en munitions, et là, vous pourrez vous exprimer.
On pourra se faire plaisir.
C'est ça, exactement. Et au niveau des adversaires aussi, évidemment, c'est progressif, dans le sens où d'abord, ils sont sans objet et ils se contentent de foncer vers vous, mais après, ça devient un peu plus compliqué. Ils sont armés et ils sont plus résistants. Et notamment, peut-être que toi, tu voudrais en dire un mot, puisque tu as joué aussi au jeu, c'est quand on affronte les mini-boss, qui sont les Big Daddy.
Les fameux Big Daddy, ouais, qui sont vraiment le personnage qu'on voit sur la jaquette du jeu, qui est extrêmement iconique, avec son espèce de combinaison comme ça de... Comment on pourrait dire, de personnages qui va sous l'eau comme ça.
Oui, un peu, oui, c'est ça.
De presque le Batiscaf vivant, ils sont immenses comme ça, ils sont vraiment iconiques.
Oui, et qui sont très difficiles à battre en plus. Hein,
ils sont ça. Très difficiles à battre.
Donc quand on en détruit un, on est assez content dans le jeu. Et voilà, donc Noé, c'est un jeu que je recommande, lui, puisque c'est le premier, mais aussi ses suites, qui aussi conserve un peu cette dimension, dont le troisième, qui lui aussi est dans une cité, mais volante hein,
oui.
cette fois.
Alors effectivement, le deuxième qui se passe dans la même cité, mais avec un propos philosophique assez différent, puisque c'est un jeu qui traite davantage de la question du collectivisme, et le troisième qui reprend un peu les grandes idées du premier, mais dans un univers qui est totalement différent, puisqu'effectivement, il s'agit d'une cité volante.
C'est ça, et cette fois sous plutôt un contrôle non pas libertarien, comme tu en parlais, mais sous un contrôle plutôt religieux.
Oui, c'est ça, avec un gourou de secte qui aurait vraiment contrôlé totalement la population. Donc on retrouve toujours un propos politique assez fort et avec des idées qui sont assez bien traitées dans les trois opus.
Donc pour moi, oui, c'est à faire, ces jeux.
C'est culte. Eh bien écoute, ça me semble être une très bonne manière de conclure cette émission. Je te remercie encore une fois d'être venu pour nous parler de ce jeu.
Bah merci à toi Jules pour l'invitation.
Eh bien écoute, ça me fait plaisir. On vous rappelle que l'émission sera disponible en podcast sur le site prune.net. Et puis en attendant, on vous dit au mois prochain pour une nouvelle émission sur un nouveau jeu.
Blues, 20th century blues, they're getting me down. Who's escaped those weary 20th century blues? Why, if there's a God in the sky, why shouldn't he grin high above this dreary 20th century din? In this strange illusion, chaos and confusion, people seem to lose their way. What is there to strive for, love or keep alive for? Say hey, hey, call it a day. Blues, nothing to win or to lose, it's getting me down. Who's escaped those weary 20th century blues? Why is it that civilized humanity can make this world so wrong? In this hurly-burly of insanity, our dreams cannot last long. We've reached a deadline, the press headline, every sorrow. Blues value is news value tomorrow. Blues, 20th century blues, they're getting me down. Who's escaped those weary 20th century blues? Wow.
why, if there's a God in the sky, why shouldn't he grin? High above this dreary 20th century din, in this strange illusion, chaos and confusion, people seem to lose their way. What is there to strive for, love or keep alive for? Say hey, hey, call it a day. Lose, nothing to win or to lose, it's getting me down. Who's escaped those weary 20th century blues?
Retrouvez Point d'expérience tous les derniers dimanches du mois et en podcast sur prune.net.